Radio Prague International en français, les informations.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de l'actualité tchèque en français sur Radio Prague International, une actualité dont voici les principaux titres. Défense, l'armée tchèque prendra le commandement de la mission européenne au Mali en 2020. Le chef de la diplomatie tchèque a soutenu les habitants de Hong Kong dans leur conflit avec la Chine. Et puis enfin, culture et cinéma, le 22e festival du film français s'ouvre à Prague ce mercredi. Comme annoncé en titre, l'armée tchèque assurera le commandement tournant de la mission de formation de l'Union européenne au Mali à l'année prochaine. C'est ce qu'ont fait savoir ce mercredi à Prague le Premier ministre Andrei Babiš et le ministre de la Défense Lubomír Metnar. La mission de commandement durera 6 mois. Pour rappel, quelques 120 soldats tchèques opèrent actuellement au Mali. Leur mission consiste à assurer la surveillance du quartier général de la mission à Bamako, ainsi qu'à l'école militaire de Koukiloro, et surtout à former et à entraîner les forces armées maliennes dans leur lutte contre les islamistes radicaux. Pékin devrait respecter l'autonomie de Hong Kong et dialoguer avec les manifestants de manière à éviter les violences. C'est en somme ce qu'estime le ministre des Affaires étrangères, Tomasz Petrzyczek. La violence choquante à Hong Kong ne réglera rien, a-t-il indiqué sur son compte Twitter. Il convient de défendre les libertés fondamentales, y compris la liberté de réunion, mais aussi assurer le respect du droit. Il faut parler avec les manifestants tout en respectant la constitution hongkongaise, y compris son autonomie. Il devrait savoir cela à Pékin aussi. Fin de citation donc du ministre des Affaires étrangères tchèque, Tomáš Petrýček. Toujours selon lui, le ministre a également exprimé son soutien et sa solidarité avec les habitants de Hong Kong. Nous sommes avec vous dans votre lutte non violente pour vos droits, a-t-il ajouté, tout en rappelant qu'il avait approuvé la déclaration du haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, selon laquelle la retenue, la désescalade et le dialogue sont la seule voie à suivre pour résoudre le conflit. Politique toujours, Marek Wiborny abandonnera ses fonctions de président du Parti chrétien-démocrate lors du congrès qui se tiendra fin janvier prochain. Élu en mars dernier à l'occasion du centenaire de l'une des plus anciennes formations politiques en République tchèque, Marek Wiborny entend néanmoins continuer de siéger à la Chambre des députés. Père de 3 enfants, Marek Wiborny a fait part de sa décision mardi. Celle-ci fait suite au décès de son épouse suite à un accident cardiaque en septembre dernier. Un parti conservateur de centre-droit, traditionnellement mieux implanté en Moravie qu'en Bohême, le parti chrétien-démocrate, qui balance actuellement dans les sondages autour de la barre des 5%, compte parmi les 7 formations de l'opposition à la Chambre basse du Parlement. Culture. La 22e édition du Festival du film français débute ce mercredi soir à Prague. Comme de tradition au cinéma, Lucerna, et ce avec la projection en avant-première de La Belle Époque, une comédie de Nicolas Bedos présentée hors compétition au Festival de Cannes. Le film est également projeté dans la salle voisine du Svetozor pour la soirée d'ouverture destinée, elle, au grand public. Une 50aine de films, parmi lesquelles 12 avant-premières, figurent cette année au programme d'un festival généralement très apprécié du public tchèque. Outre Prague, le festival, qui refermera ses portes mercredi prochain, se tient également en province, et plus précisément à Brno, České Budějovice, Hradec Králové et Ostrava. On termine ce bulletin avec un mot de météo. Comme mercredi, le temps reste très nuageux et pluvieux sur l'ensemble du territoire ce jeudi. Jeudi qui sera le jour de la fête des Albert, comprenez Albert en français. Les températures varient entre 8 et 11 degrés. Quant au soleil, il se lèvera à 7h21 pour se coucher à 16h09. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. J'ai eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. On retrouve maintenant Alexis Rosenzweig. Alexis qui nous accompagne pour la suite de ce programme. Très bonne écoute.
faits et événements en République tchèque.
À notre écoute, coûte que coûte. Et oui, chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute du programme en français de Radio Prague International, RPI pour les intimes. Et le programme aujourd'hui s'annonce, comme d'habitude, varié et diversifié. Nous irons d'abord à Kiev, la capitale ukrainienne, où était cette semaine le Premier ministre tchèque Andrej Babiš. Nous irons ensuite dans le centre de Prague, à quelques centaines de mètres de la radio, en bas de la place Venceslas, où restent des pavés fabriqués avec des pierres tombales d'anciens cimetières juifs. Camille Montagnon vous en dira plus dans quelques instants. Ce sera juste avant un nouvel épisode de notre série consacrée à 1989, avec aujourd'hui Michal Uhl. En déplacement mardi à Kiev, Andrej Babiš a réitéré le soutien de Prague à la souveraineté de l'Ukraine sur l'ensemble de son territoire et a condamné l'annexion illégale de la Crimée par la Russie. Après un week-end fait de manifestations contre lui et de commémoration de la révolution de velours, le chef du gouvernement tchèque est allé prendre un bol d'air de politique internationale à Kiev. Après son déplacement controversé en Turquie début septembre et un soutien trop appuyé à Recep Tayyip Erdogan, Andrej Babiš a souhaité marquer, avec sa visite en Ukraine, un redémarrage des relations tchéco-ukrainiennes. C'est donc en prenant clairement la défense de Kiev dans le conflit russo-ukrainien que le Premier ministre tchèque a entamé son court séjour. L'Ukraine doit faire face à des problèmes qui sont pour nous inimaginables, à commencer par l'agression russe et l'annexion illégale de la Crimée. C'est ce qu'a déclaré Andrej Babiš, qui a réitéré le soutien de Prague à la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Le conflit en Ukraine, rappelons-le, a déjà fait 13 000 morts en 5 ans et doit faire l'objet d'un sommet important. Ce sera le 9 décembre prochain à Paris. Pour ce déplacement à Kiev, le Premier ministre tchèque était accompagné par le ministre de l'Industrie et par une importante délégation de chefs d'entreprise, ainsi que par le président de la Chambre de commerce tchèque, Vladimir Dlouhý. On écoute. Il y a en Ukraine une stabilisation progressive de la situation économique et, espérons-le, de la situation politique également, ce qui crée des opportunités pour nos entreprises dans le secteur industriel et dans le secteur agroalimentaire. Un secteur agroalimentaire qu'Andrej Babiš connaît bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Le président ukrainien a ensuite remercié le gouvernement tchèque pour son aide financière dans le cadre de projets de développement de l'esprit d'entreprise, de la réforme de l'enseignement supérieur et du renforcement de la société civile. Fin de citation. Le Premier ministre tchèque a invité le président ukrainien Volodymyr Zelensky à venir participer à Prague à une réunion du groupe des pays de Visegrad, peut-être en mai prochain. Il a ajouté qu'il aimerait inviter l'ancien acteur devenu chef d'État au prochain festival du film de Carlo Vivari. Bref, bonne ambiance apparemment à Kiev, sauf, comme le rapporte la télévision publique tchèque, lorsqu'une journaliste ukrainienne a posé une question sur le séjour du fils d'Andrej Babiš en Crimée, une affaire qui avait provoqué le dépôt d'une motion de censure contre le gouvernement tchèque il y a un an à Prague. Le Premier ministre tchèque a refusé de répondre à la question. « C'est une affaire abjecte », a-t-il déclaré plus tard, en ajoutant que son fils souffrait d'un handicap et qu'il avait été utilisé contre lui par ses adversaires. Suite de notre programme en français sur Radio Prague International, et nous nous rendons maintenant dans le centre de la capitale, car lundi, la mairie de Prague a accepté de signer un mémorandum dans lequel elle s'engage à restituer à la communauté juive les fragments de pierres tombales utilisés comme pavés dans le centre-ville. Plus d'informations, c'est avec Camille Montagnon.
Si les rues du centre de Prague sont reconnaissables aux petits cubes qui pavent ces trottoirs si spécifiques, certaines des pierres qui les constituent sont en fait des fragments de stèles juives datant du XIXe siècle. Selon les historiens qui se sont penchés sur leur origine, ces pierres proviendraient du cimetière juif abandonné d'Oudlice, près de Romtov, en Bohême du Nord, et ont été concassées pour être utilisées comme pavés en prévision de la visite en Tchécoslovaquie du dirigeant soviétique Mireille Gorbatchev en 1987. Piétonne et commerciale, la rue Napchikopé et la fameuse place Venceslas sont les principaux lieux concernés par le nouveau mémorandum que la mairie et la communauté juive de Prague signeront très probablement prochainement. L'accord en question stipule que ces pierres sont progressivement extraites lors des travaux de rénovation à venir. Chaque pierre possédant un lien avec l'histoire juive devra être restituée à la communauté. Cet accord s'impose avant que ne soient engagés les travaux visant à rétablir d'ici 2023 les lignes de tramway sur la place Venceslas, comme le souhaite le directeur de la communauté juive de Prague, František Banaj.
J'espère que nous trouverons un terrain d'entente avec l'administration technique des communications. En vertu de celui-ci, les entreprises qui seront chargées des travaux d'excavation seront tenues d'extraire ces pierres lorsque leurs ouvriers tomberont dessus ou d'inviter un membre de la communauté juive de Prague sur le site.
Bien que les pierres extraites des trottoirs pragois ne puissent pas être reconstituées en tombes ou même rendues à leur cimetière d'origine, celui-ci ayant été transformé en un jardin public commémoratif, la communauté juive, qui réclame l'extraction de ces fragments depuis plusieurs années, se dit honorée par cet acte symbolique. Pour son directeur, le sort de ces pierres chargées d'histoire est d'ores et déjà scellé.
En supposant que nous trouvions des pavés de ce genre, il faudra d'abord établir combien il en existe et quelles informations nous pouvons retrouver à leur sujet. Dans tous les cas, nous voulons les réinstaller dans le vieux cimetière juif du quartier de Žižkov à Prague.
Plus tôt cette année, le maire du 1er arrondissement de Prague, Pavel Chizinski, avait suggéré de parer symboliquement la rue Napchikope, avenue commerçante qui compte parmi les plus fréquentées de la capitale, de plaques d'information à ce sujet. Mais l'idée a par la suite été abandonnée selon la télévision tchèque. Aux yeux de František Banaj, cette affaire a été exagérément amplifiée par les médias, et ce aux dépens d'autres sujets qu'il considère comme plus essentiels.
Le plus important pour nous, ce sont les choses que nous pouvons encore réparer. J'entends par là entretenir les cimetières actuels ou ceux qui peuvent encore être rénovés. Il y a un déficit de l'ordre de dizaines de millions de couronnes à cet égard. Nous voulons également nous concentrer sur la rénovation des synagogues qui peuvent encore l'être, ainsi que sur l'aide aux personnes âgées.
La communauté juive envisage donc de déposer les fragments des pierres tombales au vieux cimetière juif de Žižkov, où un projet intitulé « Trouver le visage perdu des cimetières juifs » tentera de les identifier.
300 millions de soviétiques, et moi, et moi, et moi, avec mes manies.
1989, et moi, c'est le titre de notre série consacrée au souvenir des acteurs et témoins de la révolution de velours. Et nous avons évidemment interrogé beaucoup de ceux qui étaient adultes à l'époque des événements, mais le changement de régime en 1989 a également changé la vie des enfants nés dans les années 80, des enfants qui, sans la fin du communisme, auraient eu une vie d'adulte totalement différente aujourd'hui, bien sûr. Pour évoquer les souvenirs d'enfance de cette période, mais aussi les conséquences des journées de novembre 89, Anna Kubishta a posé quelques questions à Michal Hull, aujourd'hui directeur adjoint de la Maison de la Coopération Internationale à Prague, mais aussi membre du Parti Vert.
Michal Hull, bonjour.
Bonjour.
Vous aviez 4 ans au moment de la révolution de velours, si je ne me trompe pas. 4 ans, c'est jeune. 4-5
ouais,
ans.
Presque 5.
Ouais. C'est un âge où finalement, je me disais qu'un événement comme celui-ci peut ne pas passer inaperçu pour un petit garçon. Est-ce que vous avez des souvenirs ou des images peut-être de ce mois de novembre 1989 ?
Oui, plutôt des images que des souvenirs concrets. Mais je me rappelle que mon père revient d'une manifestation. Il s'est fait un peu battu, c'est-à-dire j'ai vu les traces sur le corps d'un combat. Je me rappelle aussi que c'était une période où il y avait beaucoup de gens dans les rues. C'est-à-dire, oui, c'est une période forte. Beaucoup de choses ont changé dans la période. On a aussi changé un appartement. Pour moi, c'est une chose personnelle, mais c'est lié à cette période. C'est-à-dire, oui, j'ai des souvenirs, j'ai des images.
Donc c'est en fait un peu un bouleversement finalement pour un petit enfant à cette époque-là. Parce qu'en plus, j'imagine que voir son père avec peut-être des bleus, des marques sur le corps, c'est quelque chose de marquant.
C'est marquant, mais peut-être dans la pensée d'un enfant de 4-5 ans, on ne voit pas des bouleversements structurels. C'est-à-dire que ce n'était pas pour moi une période de changement. Bien sûr, elle l'était, mais pas pour moi. C'était pour moi un moment intense.
Vos parents vous ont expliqué ce qui se passait avec les mots des parents pour les enfants ou ils étaient trop occupés ?
On en a parlé tout le temps. les débats familiales, c'était les débats sur la politique, sur les événements, ce qui se passe dans la société, c'est-à-dire depuis la période où je me rappelle plus, c'est-à-dire depuis toute mon enfance, on discute ce qui se passe, on discute la politique, mais pas avec des mots pour les enfants, mais avec un discours normal, c'est-à-dire je suis né et élevé dans une famille où la politique est le pain quotidien.
Justement, vous le rappelez, hein, vous venez d'une famille où la politique, c'est le pain quotidien, c'est aussi une famille de dissidents, il faut le rappeler hein, pour nos auditeurs qui ne sauraient pas. Donc votre père, Petr Uhl, a été emprisonné avant votre naissance pour ses activités contre le régime communiste. Votre mère, Anna Chabatova, qu'on a eu le plaisir et l'honneur d'avoir sur nos ondes plusieurs fois, était aussi, comme votre père, signataire de la Charte 77. C'était ma question, mais finalement, vous y avez un peu répondu. J'avais envie de dire, quand est-ce que vous avez réalisé le rôle important qu'ont joué vos parents dans tout ce processus avant et après la chute du mur de Berlin, avant et après la révolution de velours?
Pour moi, le rôle de mon père était important toute mon enfance. Je savais qu'il était membre du Parlement, il était le directeur de la presse, de l'agence de presse tchécoslovaque. Après, il était un journaliste assez important, c'est-à-dire il était aussi la personne qui était en charge des droits de l'homme. C'est-à-dire pour moi, lui, il était un homme lié à la politique, ou activement, ou bien comme un bureaucrate, ou bien comme un journaliste. Ma mère, qui jouait un rôle important avant la révolution des velours aussi, dans la charte 77, a décidé pendant le début des années 90 de finir ses études. C'est-à-dire, elle s'est un peu...
Elle s'est détachée de cet aspect politique.
Oui, elle s'est un peu détachée. Elle s'est mise à étudier la fac, parce que quand elle était jeune, quand elle était étudiante de l'histoire... Elle était virée de la fac parce qu'elle était en prison aussi. C'est-à-dire qu'elle a recommencé à faire ses études et après elle avait des travaux assez normaux, ordinaires. Mais à la fin des années 90, début de l'an 2000, elle avait l'opportunité de se présenter pour la candidature de la médiatrice de la République. C'était pas un succès, elle n'était pas élue. Après, il y avait Motel qui était élu. Elle est devenue médiatrice adjointe pendant 6 ans. Et maintenant, elle est médiatrice de la République. Elle finit le mandat de 6 ans aussi maintenant. Quand elle avait l'opportunité de se présenter comme candidatrice, j'étais un peu stupéfié. Je me disais, oui, mon père, il joue un rôle important, mais ma mère. C'était aussi un moment assez intéressant pour moi de repenser un peu le rôle de ma mère et aussi le rôle des femmes dans la charte 77, parce que c'était souvent les hommes pendant les années 90, après la victoire, après le bouleversement, c'était souvent les hommes qui prenaient le rôle des ministres, des personnes importantes dans le système, mais les femmes qui jouaient un rôle aussi important pendant les années 80, 70, étaient un peu à part.
Comment est-ce que vous avez vécu, du coup, les années 90, les années d'adolescence, après la chute de ce régime communiste hein, qui a quand même changé et bouleversé l'ensemble de la société? Pour vous, ça voulait dire aussi pouvoir voyager à l'étranger, faire des études, chose notamment pour les études qui n'auraient pas été possible, en effet, s'il n'y avait pas eu ce changement de régime.
C'est intéressant parce que moi, j'ai commencé à fréquenter l'école française de Prague, c'est-à-dire c'était l'école... pour les Français, pour les étrangers qui vivaient à Prague avant la Révolution. C'est-à-dire quand j'étais dans la petite section maternelle.
C'était possible
hein? C'était possible, évidemment, ouais. Parce que c'était une école qui était acceptée par l'État. C'était aussi la période où il y avait la perestroïka, il y avait Gorbatchev, et le régime n'était pas le régime des années 50. Hein. Et pour le régime tchécoslovaque, les contacts avec la France, par exemple, c'était quelque chose assez important. Surtout... ce qui a changé, c'était la possibilité de voyager, la possibilité de dire ce qu'on pense. Pour moi, c'est quelque chose de très, très important. La révolution nous a amené des droits de l'homme. vivre sans sans les droits de l'homme, c'est quelque chose ce que je peux même pas imaginer, ce qui est inacceptable pour moi. C'est-à-dire pour moi c'est vraiment très 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 important que le changement du régime est arrivé.
Vous le disiez tout à l'heure en introduction, hein, vous venez d'une famille très politique, très politisée depuis votre plus jeune âge. Vous-même, vous êtes aussi une personne engagée en politique. Vous êtes conseiller municipal dans le deuxième arrondissement de Prague. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière que cet engagement politique, c'est un héritage familial que vous poursuivez ?
Oui ou non. C'est plutôt une façon d'héritage, c'est-à-dire mon frère, il est avocat et il joue aussi un rôle un peu similaire. Il fait souvent, par exemple, avec des immigrés, avec des procès qui sont liés à la Constitution, etc. Ma sœur, elle est journaliste. Elle fait souvent les sujets qui sont dans le domaine des droits de l'homme, des droits sociaux. Et moi, je suis le membre du Parti Vert et je suis le membre du conseil municipal de Prague 2. C'est-à-dire, oui, c'est une façon de continuer un peu le travail. Ou bien la famille nous a influencés d'une façon. Chacun des enfants a une façon comment en travailler. C'est-à-dire, pour moi, c'était un impulse que quand j'avais 18 ans, je suis rentré dans le Parti Vert. Et je suis depuis 12 ans, 13 ans, membre du conseil municipal de Prague. Oui.
Vous avez aussi été membre du conseil de l'Institut pour l'étude des régimes totalitaires. Hein. C'est une institution qui s'est aussi retrouvée de temps en temps sous le feu des critiques. Comment est-ce que vous jugez le travail de cette institution qui a été créée en 2007 ? Est-ce que vous pensez qu'elle contribue à faire un certain travail de mémoire ici en République tchèque ?
Je crois que le rôle maintenant de l'institution est positif. Le début était plutôt un peu idéologique, c'est-à-dire le travail qu'on a fait pendant la période de 5 ans quand j'étais le membre du conseil de l'institution était un peu de changer le concept de l'institution, d'être plus scientifique, d'avoir un plus grand respect sur la méthodologie d'histoire, avoir les recherches et la production des publications plus scientifiques et moins idéologiques. Et je crois que ce changement est accepté par la communauté des historiciens. Je crois que dans la façon comment les gens à l'institution travaillent aujourd'hui, que c'est un travail qui est accepté par un public assez vaste, par les hommes et les femmes politiques de la gauche et de la droite. Je suis assez satisfait comment maintenant l'institution travaille. On voit aussi un rôle important dans les écoles. L'un des problèmes de l'éducation en République tchèque, c'est qu'on est incapable, on ne travaille pas sur la période depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours. On discute beaucoup le XIVe siècle.
Les réussites,
et l'Égypte ancienne, etc. Mais on a assez de difficultés de discuter ce qui est un peu vivant encore.
Dans un entretien il y a quelques mois au Monde, une historienne américaine qui s'appelle Marcy Shore parlait des traces que les deux régimes totalitaires et le nazisme et le communisme ont pu laisser dans la psyché des sociétés concernées. Et que un des problèmes est justement que certains de ces anciens pays satellites de l'Union soviétique ou même la Russie actuelle, il n'y a pas eu vraiment de travail de fond qui a été fait peut-être pour analyser ça au niveau de la société. Est-ce que vous pensez, comment est-ce que vous voyez ça 30 ans justement, alors que cette année on fête les 30 ans de la révolution de velours, est-ce que vous pensez que c'est un travail, comme on dit en anglais, ongoing, est en cours
hein. Oui, c'est en cours. Ce qui est intéressant, c'est de plutôt retravailler, réfléchir les mécanismes de la dictature, parce qu'on les voit aujourd'hui aussi. Parce que si on ne réfléchit pas sur les mécanismes, on se dit maintenant, analytiquement, ce sont les communistes ? Non ? Alors c'est bon. Mais ça, c'est très primitif. Il faut regarder et réfléchir comment le passé nous influence, comment les systèmes non démocrates, totalitaires, se manifestent dans la période d'aujourd'hui, et comment nos pensées, notre structure de pensée est influencée par le passé. Et on voit que sûrement les 40 ans de la période communiste, surtout les 20 ans après 1968, sont gravement imprimés dans la mentalité de notre société. C'est l'une des raisons pourquoi les gens de 40 ans sont beaucoup à droite, politiquement, parce que c'est une réaction. C'est aussi la raison pourquoi les pays de l'Est sont incapables d'union maintenant, trouver un narratif commun avec les pays comme la France, l'Allemagne, etc. La période communiste est quelque chose qui nous influence aujourd'hui et qui est la rupture entre l'Est et l'Ouest de l'Europe culturellement. Et c'est l'un des fossés qu'il faut décrire, qu'il faut analyser et trouver des mécanismes, comment les esquiver, comment les surpasser. C'est aussi quelque chose qu'on voit moins dans les générations de jeunes. On voit la génération d'Erasmus, qui est une génération européenne, avec l'identité européenne. Et il faut un peu attendre que des nouveaux étudiants finissent leurs études et que la population se change. Ça va prendre 30-40 ans.
Michal Hull répondait aux questions d'Anna Kubishta. Pour retrouver cet épisode de notre série spéciale consacrée à 1989, vous le savez, une seule adresse, www.radio.cz/fr. Nous arrivons bientôt à la fin du programme en français de Radio Prague International. Merci à toutes et à tous de votre fidélité, de votre attention. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, pour nous envoyer toute demande, question ou suggestion. Merci de nous suivre en Nouvelle-Zélande, où nous avons reçu récemment quelques courriers. Bien le bonjour là-bas. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée ou soirée, où que vous soyez dans le monde. À bientôt. Ahoy.